France Culture.
Bonjour à toutes et tous. Comme tous les jeudis, entendez-vous, l'écho se penche sur un mot, une notion qui permet de mieux comprendre l'économie d'hier à aujourd'hui. Une émission programmée et préparée aujourd'hui par Anouk Millot et Diane Devancet, réalisée par Cassandre Puel et mise en onde par Dalia.
On ne peut plus acheter, on est étouffé, on est étranglé, on ne peut plus rien acheter.
Je chasse les promos, les bons prix, je mange plus de viande. Parce que la viande est trop chère, même le poisson, on pensait trouver du poisson pas cher ici, et en fait non, les steaks hachés c'est hors de prix, même les boulettes pour faire des spaghettis, c'est devenu très très cher.
La vie est vraiment chère, on ne peut pas savoir sous quel pied on doit danser, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est très dur.
Au quotidien, il y a des gens qui n'arrivent pas à nourrir, à se nourrir et à nourrir leurs enfants. Et donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. On est au 21e siècle. Je discute avec mes collègues qui sont soit économistes ou sociologues comme moi-même. Notre avis global, c'est que nous sommes au fond. Nous atteignons quasiment le fond. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça.
Les témoignages de Martiniquaises et Martiniquais récoltés par l'AFP il y a quelques mois, le 29 septembre 2024, alors qu'un vaste mouvement de grève et de protestation s'étendait à travers l'île au nom de la lutte contre la vie chère, une vie où les prix des denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus élevés qu'en France hexagonale. Depuis, un protocole a été signé le 16 octobre qui implique entre autres une exemption de TVA sur plus de 6000 produits, mesure entrée en vigueur le 1er mars. Le mois dernier, Manuel Valls, ministre chargé des Outre-mer, s'est rendu sur place et a annoncé le 17 mars un projet de loi contre la vie chère qui doit être présenté avant l'été. L'idée étant de mettre en place, et je le cite là, un plan de bataille touchant tous les facteurs expliquant la cherté de la vie et enclencher une véritable transformation économique des territoires. Le leader du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, Rodrigue Petitot, qui a porté le mouvement de contestation, a été condamné à un an de prison avec sursis pour s'être introduit dans la résidence préfectorale en novembre. Après avoir passé un mois et demi en détention, il a été libéré le 21 janvier dernier. Il avait ce jour-là appelé à continuer le combat parce que la vie est encore plus chère. Une lutte à venir donc, mais aussi une lutte qui s'ancre dans un passé à la fois proche et lointain et qui a laissé des traces. En Guadeloupe, où les écarts de prix sont sensiblement similaires à ceux de la Martinique, le mouvement de l'automne dernier a pris moins d'ampleur. Un habitant ex-syndicaliste témoignait dans Libération. Pourquoi se mobiliser alors que la Martinique a fait le travail. Nous allons également profiter de la baisse de 20% sur les 6000 produits dans l'alimentation sans avoir eu à mettre l'île à feu et à sang comme en 2009. Cette mobilisation, il fallait la faire, mais elle a laissé la Guadeloupe dans un sale état. Cette mobilisation de 2009 s'est alors concentrée autour d'un mot d'ordre qui résume à lui seul les maux économiques dont souffrent les Antilles françaises, celui de profitation. C'est à ce mot et donc à cette lutte que nous allons consacrer l'émission du jour et remonter aux origines de cette vie chère et des mécanismes d'exploitation dénoncés par les habitants de Guadeloupe et Martinique de 2009 à aujourd'hui et dont les racines sont bien plus anciennes encore. Pour comprendre donc ce terme de profitation et la réalité historique, sociale, économique qu'il recouvre, je reçois aujourd'hui Sébastien Matoura-Parsad, professeur des universités en économie à l'Université des Antilles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de nombreuses publications sur le sujet de la vie chère aux Antilles. Vous êtes également l'auteur d'un roman sur l'époque esclavagiste en Guadeloupe intitulé « Le chant des fromagers » paru en 2023 chez l'Harmattan. Également avec nous à distance, Pierre Audin, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université des Antilles. Votre ouvrage « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique » a paru aux éditions de La Découverte en 2019. Bonjour et bienvenue à vous, Pierre Audin.
Bonjour.
Nous, ici, on a deux soucis. Que le frigidaire et le congélateur soient pleins et que la voiture soit pleine d'essence. C'est les deux trucs pour lesquels on nous fait faire n'importe quoi. Et là, on a l'impression qu'on a atteint le bonheur, qu'on est bien. Et là, ce mouvement-là, ce qui gêne ce mouvement-là, c'est le fait qu'on n'arrive pas à consommer. Les gens sont mal.
Moi, ce qui m'a mise en grève le 16, c'est parce que un collectif s'est mis ensemble avec des gens d'obédience différente qui ont laissé tomber leur obédience pour pouvoir faire passer l'intérêt commun. J'ai trouvé ça très démocratique et très fort. Le terme « lienage contre profitation », vous savez, « lienage », ça veut dire « on est lié, on est soudé ». Contre profitation, profitation c'est quoi? Ça veut dire exploitation. Exploitation, mais moi, sous toutes ses formes, lienage contre profitation. C'est un réseau contre l'exploitation. Exploitation économique, morale, intellectuelle, politique, tout. Tout. Et c'est pour ça que je suis là, jusqu'au bout.
La voix d'une manifestante guadeloupéenne diffusée dans Les Pieds sur Terre sur France Culture le 1er janvier 2009 est recueillie donc lors des mobilisations qui avaient démarré à la fin de l'hiver 2009 sous la forme d'une grève générale qui a duré 44 jours. Pierre Audin, pourquoi le terme de profitation est-il alors employé? Que signifie-t-il? Pourquoi est-ce que c'est lui qui sert de point sémantique de ralliement?
Alors oui, bonjour. Donc le terme de profitation, alors on peut désigner en fait à travers la profitation, la dame le rappelait à l'antenne dans ce reportage, que c'est un terme qui vient désigner une catégorie assez générique d'exploitation, mais qui a derrière une espèce de sémantique double ou duelle. C'est-à-dire que c'est inscrire l'exploitation dans une histoire qui est une histoire esclavagiste et coloniale, en particulier parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus, mais une partie du coût de la vie est imputée aux enseignes de la grande distribution qui sont détenues pour la plupart par des familles d'ascendance blanche créole, donc ce qu'on appelle les béquets, qui sont eux-mêmes héritiers de cette histoire esclavagiste et coloniale. Donc c'est une façon de désigner les inégalités à l'échelle des sociétés antillaises, mais c'est aussi une façon de désigner des inégalités vis-à-vis de la France hexagonale, où effectivement, aux Antilles en particulier, on a près de 40% de prix en plus au niveau des produits de consommation courante, dans un territoire qui lui-même compte à peu près 36-38% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Donc la désignation même, la construction des indicateurs de pauvreté en Guadeloupe, c'est quelque chose qui prend en compte cette idée de cherté de la vie, et donc ça renvoie à une inégalité avec la population de la France hexagonale.
Sébastien Matoura-Parsad, il y a cette idée, à travers le mot, ce terme de profitation, il y a cette idée de dénoncer le profit, certes, mais surtout le système de domination qu'il y a derrière, et donc l'idée d'un abus, quelque part, cette idée que ce ne sont pas les profits en soi qui posent problème, mais l'idée d'un excès de profit, c'est cela qu'il faut comprendre.
D'un comportement qui est complètement organisé autour d'une exploitation économique qui vise à extraire le maximum de richesses du territoire, richesses au sens pécunier. C'est un néologisme qui en fait définit assez bien ce qui ressemble à ce système des Outre-mer qui est différent en fait de ce qu'on peut retrouver au visage, au regard de la France, parce que ça n'a pas d'équivalent dans le reste de la nation. Les Outre-mer, c'est vraiment une France qui a un visage particulier au regard de la France. Et donc il y a la dimension de l'exploitation économique, avec les phénomènes de concentration, d'abus de position dominante, de concentration qui mène aussi à la vie chère. Il y a une dimension aussi d'inégalité, comme disait Pierre tout à l'heure, et puis aussi de mémoire de l'esclavage. Donc c'est ces trois dimensions qu'on retrouve dans le néologisme profitation pour décrire un peu le visage socio-économique du territoire.
Pierre Audin, si on revient sur les événements tels qu'ils se sont déroulés en 2009, on entendait aussi à travers le témoignage de la manifestante qu'on entendait un petit peu plus tôt, l'idée d'un collectif composé d'un grand nombre d'organisations, un peu moins d'une cinquantaine, qui est créé initialement le 5 décembre 2008, donc presque un an avant la grève générale. Qu'est-ce qui rassemble toutes ces institutions, tous ces mouvements, toutes ces organisations-là? Autour de quelles réclamations le mouvement parvient à se fédérer?
Alors, au départ, il faut savoir que cette mobilisation contre la profitation, donc mobilisation contre l'exploitation et contre la vie chère, elle prend ses racines en fait dans une première mobilisation qui va avoir lieu aux alentours des mois de la rentrée en Guyane française, et qui va être une mobilisation contre le prix de l'essence. Il faut savoir que les organisations traditionnellement anticolonialistes et syndicales en particulier, se tiennent au courant hein, dans les différents territoires des mobilisations les unes les autres. Et petit à petit, donc au cours des mois de novembre-décembre, à la suite des élections syndicales, les principales organisations de Guadeloupe, notamment l'UGTG, l'Union nationale Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, vont décider de lancer une mobilisation sur la question du prix de l'essence au départ. Et puis, cette mobilisation va ensuite s'élargir à d'autres questions de la vie chère et va mettre en place une revendication un petit peu centrale qui va être l'augmentation de 200 euros pour tous les bas salaires et pour les minima sociaux, avec assorti d'une forme de gel des prix. Ça va être un peu la revendication centrale de ce collectif qui va agréger les principales organisations syndicales de l'île dans un premier temps, mais aussi des organisations politiques de gauche, autonomistes, mais aussi des associations culturelles, ce qu'on appelle en Guadeloupe le mouvement culturel, les groupes carnavalesques. Et toutes ces organisations vont se réunir au sein du collectif LKP, pour lui en âge contre profitation, et vont décider, après plusieurs manifestations, vont décider de lancer, d'appeler un mot d'ordre de grève générale pour la fin du mois de janvier 2009.
Pierre Audin, cette histoire-là, la façon dont le mouvement a pris aussi, vous l'avez dit, est largement porté, en tout cas cristallisé par un grand nombre de syndicats qui parviennent à trouver un accord aussi sur les revendications, sur la contestation aussi dans sa nature même. Il faut insister là, Pierre Audin, sur le rôle de ces syndicats, sur leur culture politique aussi, le fait que le mouvement est pris au nom à la fois d'inégalités, on l'a dit, qui sont profondément économiques, mais aussi dans une perspective de dénoncer une domination plus large, à la fois culturelle, historique, aussi liée au passé colonial. Cette idée d'une lutte des classes, en fait, qui est très fortement incarnée, elle peut peut-être nous surprendre, nous, de notre côté de l'Hexagone, avec cette idée de syndicats qui ne sont plus dans cette dynamique-là. En revanche, c'est un mouvement qui est beaucoup plus ancré à ce moment-là, en 2009. Ça fait partie aussi de la culture politique de ces syndicats qui prennent le relais de la contestation.
Oui, alors je nuancerai peut-être un petit peu sur la situation du syndicalisme dans l'Hexagone, pour rappeler simplement que, hormis les mobilisations des Gilets jaunes, quand même les mobilisations les plus importantes, que ça soit par le nombre de participants ou la capacité de blocage, elles sont encore le fait des organisations syndicales. Mais c'est vrai qu'il y a une forme, c'est pas tant le fait que les organisations syndicales soient ou non politisées, parce qu'on retrouve des traces indiciaires de politisation dans les organisations syndicales dans l'Hexagone, mais plutôt, on va dire, le fait que ces organisations sont issues d'une matrice anticolonialiste qui va naître dans les années 1960-1970. Ce sont des années en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, mais aussi en Guyane, qui sont des années d'essor des mouvements anticolonialistes, qui sont portés par une génération de militants particulière, des jeunes gens qui vont naître dans le moment même de la départementalisation, la fin des années 40, l'après-Seconde Guerre mondiale, quand la Guadeloupe et la Martinique accèdent au statut de département. Et ben, cette jeunesse qui se politise dans les années 60-70, elle va prendre fait et cause pour les luttes indépendantistes, pour la révolution nationale, avec l'idée à un moment donné qu'on va suivre l'exemple de l'Algérie, de Cuba, de différents mouvements révolutionnaires, et qu'on va conquérir une forme d'indépendance et de souveraineté. Et il faut savoir que ce militantisme, qui est au départ un militantisme plutôt politique, révolutionnaire, qui est ancré dans les idées indépendantistes et dans l'extrême gauche, qui se développe aussi dans la foulée de mai 68. Il y a pas mal de résonance au niveau des luttes et des mobilisations avec ce qui se passe en mai 67 en Guadeloupe, les révoltes qui sont réprimées, en mai 68 en France. Bref, tout ça va faire qu'une partie de cette jeunesse politisée, à mesure que, on va dire, l'horizon d'une révolution nationale s'éloigne, va se tourner vers le syndicalisme. Et c'est le moment, les années 70, dans lesquelles vont naître et prendre leur essor des organisations comme l'UGTG, qui sont certes des organisations syndicales qui assurent un travail de défense et de représentation des salariés, mais qui ont aussi un logiciel politique fermement anticolonialiste, tourné vers l'indépendance, avec une culture des formes d'éducation populaire à l'intersection de différents univers sociaux. Donc un syndicalisme qui est résolument politisé autour d'une cause anticolonialiste, et puis qui va s'emparer de cette question de la vie chère, qui est en fait une vieille question pour ces organisations.
Pierre Audin, vous l'avez dit, ce sont des luttes anticolonialistes, mais ce sont aussi des luttes anticapitalistes, puisque ce qui fédère finalement tous ces mouvements, tous ces syndicats, c'est quand même une question éminemment économique, et économique à travers la question de de la domination. Est-ce que cet anticapitalisme-là, il est aussi revendiqué d'un point de vue presque théorique au sein de ces syndicats ?
Oui, très clairement, des organisations comme l'UGTG ou la CGT en Guadeloupe, alors qui est une organisation sœur de la CGT française, mais qui est quand même autonome depuis les années 60, elle revendique un logiciel explicitement anticapitaliste. C'est-à-dire que les termes qu'on a évoqués, les termes de lutte de classe, mais aussi dans leur dimension anticoloniale, anti-impérialiste, c'est un vocable qui est très courant dans ces organisations. Et je vous le dis tout à l'heure, mais les principaux animateurs, les porte-parole, les leaders sont des gens qui vont être formés à cette idée de la lutte anticoloniale et anticapitaliste. Notamment à la CGT, on trouve une influence assez forte de militants d'extrême gauche, de combat ouvrier, c'est l'équivalent guadeloupéen, antillais en tout cas, de lutte ouvrière. Donc il y a toute une sédimentation, effectivement, à l'intérieur des organisations, une histoire, une trajectoire anticolonialiste, mais qui est clairement articulée à des idées anticapitalistes, assez proches de l'extrême gauche, de pouvoir aux travailleurs, de redistribution des richesses. Alors, ça ne veut pas dire que tous les membres des organisations syndicales ont, eux, des idées indépendantistes ou de gauche radicale, mais que les organisations qui donnent le là à l'intérieur du champ syndical et les principaux responsables sont, eux, des militants qui sont aussi des militants politiques révolutionnaires.
Alors, vous l'avez dit, il y a une mémoire aussi de la contestation qui est portée à travers les années, à travers les décennies. Vous l'avez déjà mentionné, Pierre Audin, c'est celle notamment des événements de mai 67 qui ont durablement marqué la lutte.
Intersoir diffusé sur les chaînes de France Culture et de France Musique. Il y aurait eu de violents incidents hier soir et la nuit dernière à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. 5000 ouvriers du bâtiment, sur un mot d'ordre de la CGT, étaient en grève depuis deux jours. Ils réclamaient une augmentation de salaire. Tout aurait commencé sur la place de la sous-préfecture, où près de 2000 ouvriers attendaient les résultats de la commission paritaire, réunie depuis le matin. Sans que l'on sache très bien comment, le ton a monté, il y a eu des bousculades et un jeune ouvrier a été piétiné.
Les CRS ont alors lancé des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants, lesquels ont répliqué en jetant des pierres. Alors, les forces de l'ordre auraient ouvert le feu, il y aurait 3 morts et 29 blessés. Dans le courant de la nuit, des manifestants armés de fusils de chasse ont sillonné les rues de Pointe-à-Pitre. Ils ont renversé et mis le feu aux voitures appartenant aux Blancs. Des cars d'Air France ont été saccagés. Bref, l'incident aurait été extrêmement violent.
À l'heure actuelle, des renforts sont acheminés de Cayenne. L'émeute paraît terminée, mais il reste encore de nombreux groupes de grévistes qui circulent dans les rues de la ville. Il y a un peu plus d'un mois, vous vous en souvenez sans doute, de semblables incidents avaient éclaté à Basse-Terre, toujours en Guadeloupe.
Ce que cet extrait d'Interactualité du 27 mai 1967 ne dit pas, c'est que les manifestations ouvrières qui ont viré à la contestation générale ont fait l'objet d'une très forte répression dans le sang, accompagnée de rafles et de tortures. Une répression qui a fait l'objet d'un vaste travail de mémoire porté notamment par la philosophe Elsa Dorlin, qui a dirigé avec Jean-Pierre Sinton et Mathieu Rigouste un ouvrage intitulé Guadeloupe, mai 67, massacré et laissé mourir. Pierre Audin, on le voit là, finalement ce qui arrive en 2009 est aussi le fruit de cette histoire de la lutte. Ce n'est pas la première fois, lorsque les contestations, les manifestations de 2009 éclatent, que l'île est confrontée à ce genre d'événements. Comment se construit cette culture finalement de la contestation ? Est-ce que le fait de se tourner vers des enjeux éminemment économiques, de trouver ce dénominateur-là commun qui serait la vie chère, est aussi une façon de reconstruire la lutte après ces années, cette fin des années 60, début des années 70, particulièrement violente et sanglante ?
Oui, alors il y a évidemment des formes de réminiscence du passé de mai 60, les événements de mai 67, à savoir les mobilisations et la répression féroce qui s'en est suivie, c'est quelque chose qui tient dans une place très très importante à l'intérieur du mouvement ouvrier et des mouvements syndicaux ou politiques de Guadeloupe, mais plus largement dans la mémoire collective, puisque vous l'avez rappelé, mais c'est un des derniers massacres à perpétrés par l'État dans les Outre-mer, qui va être pendant très longtemps tu et invisibilisé par le pouvoir français. Il va falloir attendre 2017 et l'ouverture des archives pour qu'un certain nombre d'historiens, je pense à Benjamin Stora, à Michel Zancarini-Fournel et à Jean-Pierre Sinton que vous avez cité, puissent véritablement avoir un travail de mémoire, faire un travail de mémoire qui puisse traduire l'ampleur de et la violence de cette répression, s'acheminer vers un nombre de morts qui soit un peu plus exact, et puis renseigner hein, toutes les pratiques effectivement répressives d'exaction qui se sont produites à ce moment-là. Une des premières conséquences de mai 67 va être une réorientation des mouvements indépendantistes. Parce que si les mouvements indépendantistes, ce qu'on appelle à cette époque-là le gong, ne sont pas véritablement les instigateurs de cette révolte ouvrière, ils vont en revanche faire l'objet d'une surveillance particulière de la part des autorités de l'État, et notamment du préfet Bolotte, hein, qui est un spécialiste de la contre-insurrection. Et donc, ils vont être traduits en justice en France. Il va y avoir un procès des militants du gong. Et assez rapidement, ça va avoir pour conséquence le fait que les militants vont abandonner ce qu'ils imaginaient être une stratégie possible de recours, sinon à la lutte armée, en tout cas à un soulèvement insurrectionnel, avec un véritable recentrage vers les luttes dans les environnements de travail. C'est-à-dire le moment mai 67, c'est le moment où le militantisme indépendantiste qui se pense comme un militantisme insurrectionnel et révolutionnaire va se tourner beaucoup plus vers les organisations syndicales, et c'est la naissance de l'Union des paysans pauvres de Guadeloupe, de l'Union des travailleurs agricoles dans la foulée des années 70. Donc dès le début, l'histoire même du syndicalisme, elle a partie liée avec la répression qui se met en place en mai 67. Et c'est pour ça que la perception aussi qu'on a du conflit social comme étant potentiellement un conflit qui peut dégénérer, qui peut faire l'objet d'une répression féroce. Mais 67, je le rappelle, hein, on est 20 ans après la départementalisation. Les Guadeloupéens sont français, ou en tout cas ils sont censés l'être depuis 20 ans. Donc il y a aussi une vision assez particulière du conflit social. Il fait que un conflit social peut déboucher, dégénérer sur des affrontements très durs, mais aussi faire l'objet d'une répression particulièrement violente. Et ça, c'est quelque chose qui imprègne, je dirais, le discours syndical, mais aussi les imaginaires contestataires. Quand on rentre dans des phases de mobilisation d'ampleur, on redoute la violence et surtout, on redoute une répression de la part de l'État français.
Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut comprendre ce qu'il s'est passé en 2009. Sébastien Matoura-Parsad, au vu de tout ce qu'on vient d'expliquer, de ce contexte aussi plus large en termes de bornes historiques, on a envie, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé en 2009. Est-ce que c'était une situation tellement tendue d'un point de vue économique qu'effectivement il y a eu contestation, qu'effectivement il y a eu manifestation? Quel était le contexte? Alors, on a entendu une des manifestantes qui nous parlait de son frigo et puis de l'idée de pouvoir remplir le réservoir de sa voiture. Est-ce que c'est vraiment les prix de l'essence qui ont mis le feu aux poudres à cette époque-là?
Oui, complètement. C'était ça au début. C'est d'abord en Guyane qu'a émergé le point de bascule qui s'est ensuite propagé en Guadeloupe, puis en Martinique et à La Réunion. Mais c'était plutôt le sommet de l'iceberg. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est à chaque fois des petites gouttes d'eau que les peuples des Outre-mer à chaque fois reçoivent. Il y a quand même une dimension de résilience dans ces territoires qui fait qu'ils font avec. Et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus et ça déborde. Et donc, il y a ces irruptions sociales qui font intervenir les Outre-mer, où dans les Outre-mer, on va voir générer une sorte d'invivabilité qui perdure, malgré les irruptions sociales. Mais le problème, si on essaie d'en extraire l'essence même du problème, je crois que ça reste le cœur du problème, ça reste la vie chère. Et par la vie chère, il faut entendre le pouvoir d'achat. En fait, c'est surtout une question de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est... alors là, en ce moment, depuis quelques mois, avec le soubresaut de la Martinique en 2024, on voit qu'il y a une cristallisation autour de prix élevés, d'écarts de prix élevés qui, comme l'a noté l'INSEE dans ses études, on peut observer un écart de 10 à 15% entre les territoires d'outre-mer et Hexagone. Mais ce n'est pas que les prix. C'est aussi un problème de revenus plus faibles des territoires d'outre-mer par rapport à l'Hexagone, mais aussi d'inégalités de revenus au sein même des territoires. Donc il y a des inégalités interrégionales et ultra-régionales, qui font que finalement, ce sont des territoires qui, au bout d'un moment, on va retrouver une espèce de... Et puis, comme vous parlez de mai 67, on peut remonter encore plus loin, dans les années 50, ça, au début du 20e siècle. Il y a une espèce de régularité, comme ça, de cycle, qui fait qu'on revient toujours à ces soubresauts que l'État ne parvient pas à finalement à corriger.
Oui, je crois que vous dites, vous avez dit vous-même en interview que le concept même de la vieille chaire était apparu au tout début du XXe siècle en 1910. Et donc là,
tout à fait, oui, tout à fait. Et c'était d'ailleurs une conséquence de la crise agricole, puisque les ouvriers agricoles demandaient une revalorisation de leur salaire qu'ils n'obtenaient pas des exploitants, des propriétaires de l'époque. Et donc il y a eu ce mouvement de grève qui a ensuite s'est transformé en émeute. Et pour comprendre les raisons de cette crise sociale, donc on avait demandé à M. Salinière à l'époque de faire un rapport, et il avait expliqué que la raison était la vie chère. Et cette vie chère est un concept qui est resté, qu'on a retrouvé tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. La question est de savoir, mais comment ça se fait que depuis plus de 100 ans, plus d'un siècle, et même pour s'arrêter à 1848, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à régler cette question de vie chère une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes?
Et puis il y a la vie chère et il y a ce concept de profitation. Alors les deux sont très similaires, mais avec la notion de profitation, il y a cette idée que quelqu'un, de fait, profite, que des acteurs aussi ont partie prenante, on profite de ce système-là tel qu'il a été instauré. On va voir aussi par quel mécanisme. Et c'est là où, à travers un exemple assez précis, on peut comprendre aussi ce qui se joue. Sébastien Matoura-Parsad, les revendications de 2009, on l'a dit, étaient très liées au prix de l'essence. Ça fait partie des revendications. Or, l'essence aussi arrive sur l'île de façon très spécifique. C'est un système qui est monopolistique, on peut le dire, qui est aux mains de la SARA, la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles. Elle exerce un triple monopole, c'est ce qui a été dit de façon assez récente dans un rapport qui a été publié en tout début d'année dernière. Les inspecteurs des finances qui avaient étudié le cas de la SARA signalent qu'il y a une absence totale de contrôle des services de l'État vis-à-vis de la grille de fixation des prix de l'essence. C'était en 2024, c'était en 2009. Finalement, on voit qu'il y a là des acteurs qui justifient leur monopole sans qu'on arrive véritablement à les réguler. C'est ça l'essence du problème, Sébastien Matoura-Parsad.
Alors, l'essence du problème, effectivement, c'est le cas de le dire. En fait, il y a eu c'était l'IGF qui avait fait une enquête sur la fixation du prix du carburant. Ils avaient effectivement montré qu'il y avait des incohérences dans le processus de formation du prix, en tout cas de fixation du prix. Il faut rappeler peut-être que le prix, il est construit par la SARA, et le préfet, qui représente l'État, est censé faire respecter un plafond que ne doit pas dépasser la SARA. Et c'est avéré que cette formule qui permettait de construire le prix était assez opaque, et donc les services de l'État ont demandé à avoir plus de transparence, plus de lisibilité dans cette formation du prix. Depuis une dizaine d'années, donc il y a pas mal de travail qui a été fait au niveau du ministère pour avoir un suivi au niveau de la formation du prix. On reste quand même à des niveaux qui sont un peu plus supérieurs que ce qu'on peut retrouver dans l'Hexagone pour plusieurs raisons, mais on est à des niveaux qui semblent quand même respecter une certaine tolérance en termes de prix. Donc le prix du carburant aujourd'hui n'est plus le problème central comme ça a pu être le cas en 2009. De ce côté-là, il y a beaucoup plus de contrôle qui a été fait, mais il y a d'autres problèmes, notamment dans l'alimentaire, la distribution et puis dans d'autres secteurs d'activité où on a des écarts de prix qui sont extrêmement importants.
Alors de 2009 à aujourd'hui et même depuis le début du XXe siècle, on vient de le dire, le problème de la vie chère persiste. Tout l'enjeu est de comprendre pourquoi cette persistance. Alors pour le comprendre, il faut remonter aux racines d'une économie marquée par l'exploitation coloniale, dénoncée là encore lors des protestations de 2009.
Je sais que les négociations vont prendre du temps, parce que là on est en train de monter le monde, là, parce qu'on va toucher au profit de ceux qui nous ont exploités pendant 50 ans. Et moi, je pense que c'est vraiment difficile de faire ce que moi j'appelle aujourd'hui la révolution, parce que s'il faut parler du passage de la Guadeloupe, de la colonie à autre chose, peut-être à une plus grande intégration, eh bien, elle commence maintenant. Parce qu'en 1946, rien ne s'est passé. Parce que le système colonial est resté. Parce que tout ce qui se passe maintenant, eh bien, c'est le système colonial. C'est bien ce que dénonce le collectif. C'est ça. Donc, on était encore une colonie sous couvert des départements. Et vous savez, vous remarquez, les gens ont mis beaucoup de rouge parce qu'on a pris comme couleur le rouge depuis quelque temps. Alors le rouge, ça peut être la couleur du sang, hein. Mais ça sera la couleur de la victoire, je suis sûre.
Pierre Audin, vous le dites dans votre ouvrage, le schéma originel de la problématique de la vie chère découle directement de la départementalisation de 1946-1947. D'un point de vue économique, que s'est-il passé à ce moment-là? Pourquoi ce schéma-là découle de ce moment-là?
Alors, effectivement, moi, je pointe dans mon ouvrage, j'exhume un peu un vieux texte d'un intellectuel marxiste qui s'appelle, et libertaire, qui s'appelle Daniel Guérin, qui va produire, à la fin des années 40, un petit ouvrage qui s'appelle Les Antilles décolonisées, qui va être préfacé par Aimé Césaire, et dans lequel il détaille toute la question des monopoles d'importation, de la question de l'acheminement des denrées sur les îles de Guadeloupe et de Martinique, la question des impôts directs et indirects qui font augmenter les prix et qui commence dès les années 40 à prévenir ce mécanisme de cherté de la vie. Un autre élément qui est important, c'est quand même ce qui va se passer au tournant des années 60-70, parce que si après la Seconde Guerre mondiale, l'économie guadeloupéenne est principalement une économie de à la fois d'exportation de produits agricoles, notamment le sucre et dans une moindre mesure la banane, cette économie-là, elle va affronter une crise extrêmement dure au cours des années 70, puisque c'est petit à petit, à mesure que de la conjoncture économique, cette économie-là ne va plus être rentable. Et ça va se traduire par de très nombreuses fermetures d'exploitations et d'usines sucrières et par une augmentation importante du chômage dans ces années-là. C'est-à-dire que la population qui était à l'époque majoritairement une population de travailleurs et de travailleuses agricoles va être exposée à un chômage de masse. Et ce qui est assez connu et assez renseigné aussi, hein, par les travaux, je pense notamment à ceux de Maël Lavener-Pinault, c'est que le moment de la départementalisation, il introduit une situation, je dirais, pour le dire de façon un peu triviale, un peu schizophrène, c'est-à-dire c'est l'essor d'une société de consommation en Guadeloupe qui passe par cette importation massive, et c'est en même temps une situation assez bancale du point de vue économique, parce que les classes laborieuses sont de plus en plus précarisées, exposées au chômage. L'État réagit en mettant en place le Bumidom pour faire migrer les Antillais vers l'Hexagone. Et dans le même temps, alors ce qui alimente une partie du ressentiment vis-à-vis des anciennes de la grande distribution, c'est que ce sont pour une part importante les anciens propriétaires d'usines sucrières et propriétaires terriens qui vont réinvestir leur capital dans les enseignes de la grande distribution. Ce qui construit, du point de vue matériel, mais surtout du point de vue symbolique, l'idée que les anciens maîtres et les anciens propriétaires d'hier, ceux qui sont les fauteurs du chômage, vont se muer en fauteurs de vie chère, puisque ce sont eux qui sont accusés de pratiquer des marges excessives dans la grande distribution sur le dos de la population et des consommateurs. Donc vous voyez un peu comment se construit une espèce de filiation symbolique entre les anciens propriétaires terriens eux-mêmes, souvent descendants de familles esclavagistes, notamment dans le cas de la Martinique, hein, et qui vont se retrouver être les propriétaires en situation monopolistique des enseignes de la grande distribution.
On va voir effectivement que cette confrontation-là aussi entre deux types de populations, ceux qui descendent effectivement de familles qui étaient largement, on va dire, dépendantes d'une forme d'exploitation aussi de la main-d'œuvre lors de l'époque coloniale et qui en ont profité de fait. On retrouve ce terme de profitation. Ce lien-là est très fort et c'est ce que montrait d'ailleurs cette archive de 1995.
Alors c'est vrai que historiquement les relations entre les béquets martiniquais et leurs planteurs n'ont jamais été un exemple de la sérénité dans les relations de travail. Mais c'est vrai aussi qu'en Martinique, par exemple, il y a une grosse partie de la production qui est faite par des tout petits planteurs. Bon, des gens qui sont obligés de brader leur production pour la vendre. Bon, c'est quand même quelque part. C'est une culture de rente, donc c'est une culture qui est aussi archaïque dans sa structure. Enfin, elle est très moderne dans la façon dont on va apprêter le fruit. Bon, la modernité est rentrée, mais par contre, elle est extraordinairement archaïque au niveau des relations de travail. Enfin, c'est une production pré-industrielle. Enfin, c'est le 19e siècle. À certains côtés, c'est très Zola comme relation de travail dans le monde de la banane. Bon, et ça, c'est quelque part, bon, c'est un peu gênant.
Voilà, une archive de 1995 avec la réalisation d'époque qui va avec. On entendait là le témoignage d'un ouvrier dans une plantation de bananes et qui évoque la relation avec les béquets qu'on a commencé à évoquer, c'est-à-dire les familles de propriétaires terriens blancs qui ont le plus souvent réalisé leur fortune grâce à la colonisation ou à l'exploitation de la main-d'œuvre esclave dans les plantations. Sébastien Matoura-Parsat, quel poids aujourd'hui encore des béquets dans ces économies antillaises, en Guadeloupe et en Martinique notamment ?
Alors, il faut savoir que à l'abolition de l'esclavage, il y a un dédommagement qu'ont reçu les propriétaires d'esclaves de 126 millions de francs or. Certains ont réussi à faire perdurer leur activité. Donc, on retrouve encore quelques familles dans les secteurs clés agricoles qui sont ancestraux, hein, comme la banane et la filière canne-sucre-rhum. D'autres se sont reconvertis. C'est notamment le cas d'un fameux groupe qui a réussi à rebondir dans le secteur de la distribution et à faire quelque chose qu'on retrouve peu ailleurs, à être présent dans toute la filière d'approvisionnement du produit et de façon à constituer une espèce de concentration qui soit à la fois verticale et horizontale. Alors oui, c'est vrai qu'il y a encore certaines familles qui sont bien présentes et qui détiennent des secteurs clés, qui sont présentes dans des secteurs clés. Et le problème de ces petits territoires, c'est que comme ce sont des petits territoires, on ne peut pas avoir beaucoup d'acteurs et donc on a très vite un phénomène de concentration qui apparaît, surtout quand ce sont des acteurs comme eux qui avaient déjà au point de départ un patrimoine qu'ils pouvaient réinvestir. Après, à côté de ça, il y a aussi des familles, des entreprises dont les chefs d'entreprise sont d'origine de l'Hexagone, qui viennent occuper des secteurs clés aussi importants. Je pense notamment à l'énergie renouvelable. Dans ces territoires, on a des entreprises qui sont aux mains d'hexagonaux. Et puis aussi des familles antillaises qui ont, au fur et à mesure de la décolonisation, à départementalisation, ont réussi à émerger et à prendre et à s'inscrire dans le paysage, notamment je pense au secteur du BTP et puis du secteur quelques secteurs du service. Par exemple, on parle notamment du groupe Bernard Hérault en Martinique, il y a aussi le groupe Parfaite qui n'est pas forcément un béquet et qui pourtant a réussi à être bien présent. Il y a maintenant une espèce de cristallisation autour des descendants de propriétaires d'esclaves parce que ce sont notamment eux qui au départ ont perçu ce dédommagement. Et de facto, ça crée des inégalités en fait de revenus, parce que à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsqu'on a dédommagé les anciens propriétaires, en même temps, on lâchait dans la rue des anciens esclaves, des nouveaux travailleurs qui n'avaient pas d'autre choix parce qu'ils avaient obligation de travailler pour les anciens propriétaires, et eux ne percevaient rien. Donc, de facto, vous avez créé des inégalités de revenus entre ceux qui avaient déjà tout et ceux qui n'avaient rien. Et l'État essayait, au fur et à mesure du temps, d'essayer de résorber cette inégalité de prix, cet écart de revenus, en fait, pas de prix, cet écart de revenus entre les deux extrémités de l'échelle de revenus. C'est pour ça que, peut-être pour nuancer ce qu'a dit mon collègue Pierre Audin tout à l'heure, moi je situerais plus la cherté de la vie aux prémices même de la colonisation.
C'est ça, il faut y revenir, parce qu'il y a ce facteur-là du monopole et qui de fait prend une place extrêmement importante après l'abolition de l'esclavage, vous l'avez dit, et puis qui se perpétue encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on pourrait remonter encore au-delà dans tout ce qui constitue finalement le facteur prix d'un bien, et notamment lorsqu'il est importé. Et c'est là où en fait le système colonial se perpétue également. Sébastien Matoura-Parsat, il y a cette idée que très tôt, dès le début quasiment, il y a eu cette idée que oui, les biens importés seraient de fait plus chers, et ce n'est pas uniquement mécanique, ce n'est pas uniquement parce que qui dit importation dit coût de déplacement, qui dit coût de transport, c'est aussi une décision éminemment politique, elle est voulue, elle est stratégique, elle est pensée comme telle.
Exactement, elle est pensée comme telle pour extraire le maximum de richesses au bénéfice du royaume à l'époque, puisque c'était le cardinal Richelieu qui avait donné carte blanche entre guillemets aux aventuriers qui allaient s'installer dans les colonies, donc d'Esnambuc à Saint-Christophe, ensuite il y a Duplessis de l'Olive en Guadeloupe, puis Diel du Parquet en Martinique et ensuite en Guyane et à La Réunion. Mais de facto, enfin dès le départ, dans ces territoires il n'y avait rien, c'était des terres occupées par les naturels, les Amérindiens qu'on appelle Kalinago, Et donc il n'y avait rien et il fallait approvisionner les habitants, les colons et les engagés qui étaient arrivés dans ces territoires-là. La compagnie avait fait en sorte que de faire venir donc des produits dont avaient besoin les colons et qu'ils vendaient au prix le plus cher puisqu'ils étaient en situation de monopole. Et donc il n'y avait pas de politique pour fixer des prix. Donc, ils fixaient en fonction du consentement à payer des occupants, des habitants de l'époque. Et c'était au plus cher. Et ça donnait lieu, tout au long de l'histoire de la colonisation, ça donnait à des conflits, en fait, entre les habitants, les engagés, enfin, les engagés, puis les colons, avec les commis, qui étaient les salariés, en fait, des compagnies, qui fixaient les prix. Qui fixaient les prix pour l'importation, mais aussi pour l'exportation. Puisqu'ils achetaient pour fournir aux marchands des villes portuaires, qui revendaient ensuite dans le reste du territoire et le reste de l'Europe. Et donc, il y avait ce contrôle des compagnies dans la fixation des prix. Et c'est dès là qu'on a eu cette création de prix élevés. Et à l'abolition de l'esclavage, on a eu cette question de salaire, de revenus faibles. Et donc, c'est ça qui a... C'est cette conjonction des deux éléments. Donc, c'est pour ça que moi, je situerais plus le problème de cherté de la vie avant la départementalisation, au moment même de la colonisation, au moment où ce sont des systèmes coloniaux, qui a perduré dans le temps.
D'autant, Sébastien Matoura-Persade, comme ça, on aura un aperçu à peu près complet, qu'il faut aussi rajouter la question de l'octroi de mer, qui a aussi des origines beaucoup plus lointaines également. Ça aussi, ça pèse, ce mécanisme-là pèse. Il a d'ailleurs fait partie des revendications en 2009, l'idée de le supprimer. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et peut-être nous expliquer aussi en quoi cet octroi de mer vient s'ajouter à tous les mécanismes que vous venez de décrire.
Alors, sur l'octroi de mer, moi je serais peut-être un petit peu plus nuancé. Bon, tout d'abord, c'est une taxe qui est la plus vieille taxe de la législation fiscale française. Elle date de 1670 à peu près. D'abord, elle a été mise en place en Martinique, puis étendue aux autres territoires. L'idée, c'était pour que le développement des territoires, l'aménagement des territoires, pèse le minimum pour le royaume. Donc, il fallait décharger le trésor royal de cette charge. Et donc, on demandait aux colonies, finalement, de se débrouiller elles-mêmes pour aménager les ports, les routes, etc. Et donc, l'idée, c'était de gréver une taxe sur les prix des produits importés, qui étaient déjà assez chers. Donc, on mettait une taxe pour financer donc, l'aménagement du territoire. Ensuite, cette taxe donc, qui était consacrée uniquement aux produits importés a fait l'objet de, et restée dans le temps, et a fait l'objet de critiques, notamment aux alentours des années 90, par quelques entreprises européennes, de France et d'Allemagne notamment, qui se plaignaient du fait qu'elles envoyaient dans les territoires d'outre-mer des produits qui étaient taxés alors que les productions locales de ces territoires n'étaient pas taxées. Donc ils se plaignaient de ce manque de compétitivité, de cette compétition concurrence déloyale. Et donc la Commission européenne a alors décidé de taxer à ce moment-là les produits locaux d'octroi de mer. Mais la législation a fait que les produits locaux concurrentiels des produits importés soient un peu moins taxés. Donc on parle d'un différentiel de taxation. Après, sur le poids de la taxe, c'est là que je dis que je suis un peu plus nuancé parce que finalement, quand vous regardez par exemple la Guadeloupe, la taxe de l'octroi de mer, en moyenne, représente 9,5%. Le taux de taxe de TVA, TVA normale, ça représente 8,5%. La TVA nationale, à représenter 20%. Et donc, finalement, c'est un taux qui est plus faible que la TVA nationale, dont on ne parle jamais, d'ailleurs. La TVA qui est appliquée dans les territoires d'outre-mer n'est pas beaucoup plus différente de la TVA du taux d'outre-mer. Et pourtant, on se cristallise sur l'outre-mer et on ne parle jamais de la TVA. La TVA, l'outre-mer, pour rester sur la Guadeloupe, ça représente à peu près 350 millions. Quand la TVA représente, enfin je parle de produits fiscaux, de recettes de fiscalité, quand la TVA représente à peu près 280-300 millions. Et donc le différentiel est assez faible. La différence maintenant entre les deux taxes, c'est que la TVA, lorsqu'elle est appliquée dans les territoires d'outre-mer, elle repart dans les caisses de l'État au niveau national.
Ça, c'est qu'il faut rappeler l'utilité, enfin le point aussi de cet octroi de mer aussi. C'est
exactement.
Sa finalité.
Exactement. C'est là qu'on voit que c'est pour ça que je donnais à nuancer cette dimension, cette fixation qu'on a sur l'outre-mer, parce que la TVA collectée dans les territoires d'outre-mer, donc repart au niveau national et sert la politique de l'État pour toutes ces mesures. Qui concerne le national et le territorial dans les territoires d'outre-mer. L'outre-mer, la recette de l'outre-mer reste dans le territoire local. Elle est reversée aux collectivités locales qui l'utilisent soit pour faire de l'investissement, soit pour faire du fonctionnement. Et donc, si c'est une taxe, c'est normal, comme toute taxe, ça pèse sur le prix des produits, mais cette taxe va servir de revenu qui va être redistribué notamment aux salariés des collectivités. Donc, amener du revenu, donc compenser le poids de la taxe, si vous voulez. Ce qui n'apparaît pas pour la TVA. La TVA, le revenu part au national. Alors le revenu de l'outre-mer dans le local, dans les territoires d'outre-mer, permet aux ménages et aux salariés donc de pouvoir vivre finalement.
Donc on voit que de toutes les priorités, celle-ci n'est peut-être pas la plus prioritaire. On peut le dire ainsi, on peut rappeler quand même en 2009, c'est Alain Plaisir, ancien douanier guadeloupéen et dirigeant de la Centrale des Travailleurs Unis, qui avait porté notamment l'idée d'une suppression de l'octroi de mer sur les entrants. Il s'en était fait le porte-parole. Ces manifestations de 2009 sont au centre de notre émission aujourd'hui, où nous intéressons au mot profitation comme le symbole d'une addition aussi d'un système politiquement soutenu pendant des siècles, on vient de le voir, additionné donc aux intérêts d'une classe héritière de ce système de domination et qui forme donc le mot d'ordre de la contestation aux Antilles françaises, une contestation qui s'était regroupée autour de ce mot « La Guadeloupe est à nous, pas à eux ».
Oui, Guadeloupéens, c'est l'air qui vivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. El Capé, ou Vaisier à nous.
La nous adèle là, soleil là j'a qu'à chauffer, ou vini qu'à manger nous, ou vini à soifer nous, on vite nous que dit vous, si t'es une bobo, si ni longue.
La Guadeloupe c'est à nous, la Guadeloupe c'est pas d'ailleurs, j'oublie que t'es fait ça yoblé, ça yoblé un pays à nous.
Il chante.
Là, c'est la chanson de Lienage contre profitation pour le collectif. Voilà.
Ça dit quoi ?
La Guadeloupe nous appartient. La Guadeloupe nous appartient. La Guadeloupe, c'est pas à eux.
Même si c'est le chant de guerre, c'est un chant de guerre qu'on chante. C'est pas un chant pour s'amuser. On n'est pas contents. Les gens qui sont là sont pas contents.
La dénonciation de la vie chère est récurrente en Martinique et en Guadeloupe. En 2009, c'est le terme de profitation qui avait cristallisé les revendications d'un très grand nombre d'acteurs, collectifs, citoyens et syndicats. Une lutte qui, nous l'avons dit, trouve ses origines dans la colonisation et l'organisation du commerce qui en découle. Or, la vie chère, c'est non seulement le prix des marchandises importées, nous l'avons compris, mais aussi un niveau de vie général largement dégradé. Et c'est ce que pointait du doigt, d'ailleurs, Stéphane Ayotte, directeur général du groupe GBH, devant la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises. C'était le 28 mars dernier.
La vie chère, c'est le prix des produits, mais c'est aussi le pouvoir d'achat que vous avez pour pouvoir acheter ces produits. Et la grande difficulté, c'est qu'en Outre-mer, nos compatriotes sont trop nombreux à ne pas avoir d'emploi, à vivre des minima sociaux, et donc à avoir un pouvoir d'achat trop faible. Et quand votre pouvoir d'achat est faible, même ce qui est pas cher est trop cher. Si je baisse artificiellement mes prix au-delà de ce que mes magasins et de ce que mon compte de résultat me permet de faire, les clients que vous êtes et que nous sommes dans la vie de tous les jours viendraient chez moi et ça créerait une catastrophe au niveau de la concurrence. Je suis en première ligne du client et j'ai bien conscience j'ai bien conscience que c'est un problème majeur. Nous nous battons tous les jours, tous les matins de la vie. On se lève en se disant quelle bonne idée on peut trouver pour baisser les prix. Si en plus je trouve une bonne idée que mon concurrent n'a pas trouvé, c'est gagné. Mais la réalité, c'est que 80% de ce que nous vendons, nous le faisons venir de 6 à 7 000 kilomètres.
Pierre Audin, vous le dites dans votre ouvrage intitulé « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique » paru récemment aux éditions de La Découverte. Vous le dites, face à l'économie très majoritairement importatrice, une entreprise commerciale n'a que deux solutions pour améliorer son résultat. La première consiste à baisser ses coûts d'approvisionnement et la seconde à augmenter ses prix. On voit là le lien direct avec la vie chère qui est dénoncée au moins depuis 2009. Toute la question est finalement celle de la régulation, de la volonté d'améliorer ses résultats. Il n'y a pas que l'octroi de mer ou le coût d'acheminement qu'on évoquait à l'instant, il y a la pratique de marge abusive qui pèse aussi dans cette économie de la vie chère.
Oui, bah effectivement, la question des marges abusives, ça fait partie des pierres de touche hein, de cette question de la vie chère. Elle est toujours complètement centrale. Bon, moi, j'entends les paroles de M. Ayotte quand il se dit... quand il se demande tous les matins, la main sur le cœur, comment il peut faire pour faire baisser les prix dans ses enseignes. Bon, quand on vit en Guadeloupe ou en Martinique, on entend surtout des gens qui se demandent comment ils vont parvenir à boucler les fins de mois ou à remplir leur caddie. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même dans des territoires particulièrement pauvres et particulièrement exposés à la pauvreté, au chômage, des territoires dans lesquels il y a des retards, des inégalités sociales très fortes. Il y a c'est des populations aussi qui sont moins diplômées, qui poursuivent moins d'études, où le sentiment de vivre dans un environnement assez dégradé du point de vue des services publics est très fort. Bon, dans ce contexte-là, quand on tient en suspicion des groupes comme le groupe Bernard Ayotte ou comme la famille des Pointes de fixer des prix qui sont abusifs, nécessairement, ça alimente des formes de colère sociale et de conflictualité. Moi, ce que je voudrais un petit peu souligner sur les évolutions récentes, c'est que dans les années 2000, à la fin des années 2000, quand il y a eu le LKP, la centralité syndicale faisait que une des solutions qui était prioritairement envisagée, c'était la question de l'augmentation des salaires. Il faut pas oublier que 2009, c'est quand même une lutte dont la revendication centrale, c'est l'augmentation des salaires et le gel des prix. Pour que l'augmentation de salaire soit pas mécaniquement absorbée par l'inflation. Mais il y a quand même cette idée qu'on part dans la lutte avec des revendications offensives et qu'on va conquérir du pouvoir d'achat. Là où, au cours des dernières mobilisations, cette dimension-là, elle semble avoir reculé. Et aujourd'hui, la demande principale, ça semble être de demander à l'État, de l'extérieur, davantage de rigueur dans la surveillance, la fixation des prix, des contraintes vis-à-vis de ces groupes monopolistiques. Mais on voit bien aussi que ça laisse davantage de marge à des gens comme Monsieur Ayotte pour dire « Ah bah oui, vous voyez bien, moi je fais tout ce que je peux pour que les prix soient moins chers, mais les gens sont quand même pauvres. » Évidemment, la question faudrait demander à Monsieur Ayotte ou un certain nombre de chefs d'entreprise ou de patrons s'ils seraient d'accord pour payer davantage les gens qui sont en emploi. Bon, c'est pas sûr non plus, mais quelque part, il peut se permettre de dire ça parce que la situation a changé, quoi, de ce point de vue-là.
Et c'est extrêmement intéressant. Et de ce point de vue-là, Sébastien Matoura-Parsad, on voit là le poids aussi donné à certains acteurs qui représentent, on l'a dit, du fait de ce phénomène de concentration et de monopole, une très très grosse part aussi de la vie économique à chaque fois et qui est très liée aussi à ce phénomène plus historique. Mais cette importance donnée aux acteurs, à la façon de se défendre aussi, de défendre leurs intérêts, elle est essentielle. C'est aussi des gens qui incarnent une part entière de l'économie. À partir de ce moment-là, on peut se dire qu'ils font pression aussi pour que les choses ne changent pas nécessairement.
Oui, effectivement. Et c'est là qu'on peut voir que la colonisation a un effet d'hystérèse que seules les coutures de l'histoire, finalement, peuvent permettre de ressentir ou toucher et de rendre l'imperceptible perceptible. Quand vous regardez la construction donc de la colonisation, Colbert avait demandé à ses gouverneurs à l'époque de se montrer très conciliant avec les planteurs parce qu'il y avait une charge fiscale dont ils se plaignaient, il y a un niveau des prix qui était important et donc ils se plaignaient. Et donc Colbert demandait demander à ces gouverneurs d'être conciliants. Et ce phénomène de cet aspect de être conciliant finalement est resté dans l'histoire, puisque jusqu'à aujourd'hui encore, lorsqu'on prend des décisions économiques et enfin des décisions politiques à visée économique, lorsqu'il s'agit de réformes de politique économique, ben on prend la tâche d'acteur influent, d'acteur de poids, qui fait que d'ailleurs, je me rappelle quand j'avais lu le livre de Yves Jégo après sa entre guillemets sa destitution, ce remerciement. Il disait que voilà, c'était les grands groupes qui avaient eu sa tête. On voit donc l'influence de groupes importants et à quelle mesure ça peut avoir un point important sur le fonctionnement et le déroulement et le développement de ces territoires. En fait, ce sont des, quand on parlait tout à l'heure on entendait le monsieur Ayotte qui était dans, je crois que c'était un extrait de la
qui était face à la commission d'enquête, oui, sur les aides publiques aux entreprises.
En fait, il faut bien se rendre compte du pour bien se rendre compte du poids, je vais vous donner un chiffre. C'est un chiffre qu'il avait communiqué, c'était pour l'exercice 2022-2023. Son chiffre d'affaires d'à peu près de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. C'est un groupe martiniquais, donc au regard du PIB martiniquais, ça représente plus de 50% du PIB martiniquais. Et je vais mettre ce chiffre-là en perspective. Quand vous regardez aux États-Unis, les 10 entreprises les plus importantes, le chiffre d'affaires cumulé des 10 entreprises les plus importantes américaines, parmi lesquelles vous trouvez Elon Musk, Bezos, etc., représente 15% du PIB américain. Et pourtant, on a Elon Musk qui chuchote à l'oreille du président. Donc jugez l'influence donc que peut avoir les entreprises qui ont un très grand poids dans ces territoires.
Donc si je vous comprends bien, Vincent Matoura-Parcède, Sébastien Matoura-Parcède, à partir du moment où Stéphane Ayotte est entendu dans le cadre d'une commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises, mais on pourrait aussi citer le fait que 5 eurodéputés écologistes réclament des investigations sur les pratiques anticoncurrentielles de GBH. C'est un fait assez récent qui date de fin janvier. Ça ne peut pas forcément être vu comme des signes forcément très positifs ou en tout cas que les choses vont radicalement changer.
Jusqu'à maintenant, les choses ont peu évolué. On vous parlait tout à l'heure de 2009. Ce sont les mêmes revendications qu'on a retrouvées en 2024, qu'on avait retrouvées par le passé également. Et pourtant, rien n'a réellement changé. Monsieur a dit qu'il va faire le maximum pour faire baisser les prix, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord une entreprise qui est là pour faire du chiffre d'affaires, du profit. Et donc la question de l'amélioration du niveau social viendra de façon indirecte, mais c'est pas son leitmotiv. C'est très bien qu'une entreprise réussisse à être un tel champion. On peut se féliciter du management et de la vision du chef d'entreprise, mais ce qui est embêtant, c'est les répercussions, les conséquences négatives que ça peut avoir sur le reste de la population.
Alors vous avez dit que rien n'a vraiment changé depuis 2009. En 2012, le sénateur de la Guadeloupe, Victorin Lurel, ancien ministre socialiste des Outre-mer, avait porté la dernière loi générale en date contre la vie chère, en tout cas la dernière en date jusqu'à ce que celle qui est censée arriver avant l'été 2025 arrive. Cette loi, elle date de 2012. Elle impliquait l'interdiction des accords exclusifs d'importation, un pouvoir d'injonction de l'autorité de la concurrence sur les entreprises, la création d'un bouclier qualité prix. De ce point de vue-là, Pierre Audin, est-ce qu'on peut dire que la lutte de 2009 a malgré tout porté ses fruits? Et je vous pose la question d'autant plus que j'ai commencé cette émission en citant un témoignage qui témoignait d'une forme de lassitude aussi. C'est une lutte qui a coûté très cher aux habitants, aux habitantes. Elle a coûté cher en termes de PIB. C'était aussi des salaires non versés pendant la grève. Est-ce qu'il y a un risque d'épuisement aussi de la lutte de ce point de vue-là?
Je ne saurais pas dire exactement. Est-ce qu'il y a un sentiment d'épuisement? Oui, en partie. En tout cas, il y a un souvenir qui est très très clivé sur ces mobilisations de 2009, parce que il y a à la fois le souvenir d'une mobilisation générale, d'une mobilisation offensive, d'une mobilisation qui avait quand même été en partie victorieuse, et en même temps de répercussions finalement assez négatives pour l'économie, et puis d'un retour à l'ordre qui a été terrible et qui fait que il y a une partie de la population qui continue de soutenir des mobilisations du LKP, mais qui le fait de façon plus précautionneuse. Bon, on a l'impression quand même que ces organisations qui étaient très puissantes en 2009 le sont moins aujourd'hui, et qu'effectivement, il y a des formes de résignation. Ce qui est inquiétant, c'est que comme les problématiques sociales, elles ne se résorbent pas et qu'au contraire, on a le sentiment, en tout cas la perception, la représentation que ça s'aggrave et que ça se dégrade, c'est quelle forme pourra prendre la conflictualité sociale dans les prochains épisodes. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est quand même inquiétant.
Et déjà en 2009, l'idée que la lutte allait continuer, devait continuer, était déjà présente.
Il faut qu'on aille beaucoup plus loin maintenant. On a fait un grand pas là. Pour moi, c'est un pas de géant, nous faire.
De toute manière, ce qu'il faut qu'il sache, c'est que l'histoire pas ni machaouye. L'histoire ne recule pas. Ce qui est rentré dans nos têtes là, ce que nous avons vu, personne ne pourra l'enlever. Personne. Alors, tous ces décideurs, ils ont intérêt à satisfaire les revendications. Parce que ce qui arrivera, c'est que les gens reprendront leur travail. Mais d'ici 3-4 ans, eh bien, c'est le feu qu'ils vont foutre. Hein. C'est ça. Plus personne ne pourra les contenir. Hein. Voilà.
Un grand merci à tous les deux, Pierre Audin et Sébastien Matoura-Parsat, d'avoir participé à cette émission où nous avons tenté de comprendre ce cachait derrière le terme de profitation, une émission à réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.